Au nom de l'équipe de l'ESCOM, j'aimerais Madame Jocelyne Dahlia vous remercier d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Madame Dahlia, vous êtes historienne, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS à Paris. Vos thèmes de recherche sont principalement axés sur l'histoire des rapports interculturels entre les différents pays du pourtour méditerranéen. Parmi vos nombreux ouvrages, je cite « L'oubli de la cité », paru à la découverte en 1990, « Le divan des rois, le politique et le religieux dans l'islam » aux éditions Aubier en 1998, « Trame de langue », un ouvrage collectif que vous avez dirigé, « Trame de langue, histoire et métissage linguistique dans l'histoire du Maghreb », paru à Maisonneuve et La Rose en 2004. Je signale que cet ouvrage est issu d'un programme de recherche franco-maghrébin entrepris entre 2000 et 2001 dans le cadre de la Convention d'échange scientifique de l'HESS et l'IRMC, c'est-à-dire l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain. Un programme qui a réuni 40 chercheurs issus d'horizons scientifiques différents. Je cite aussi parmi vos ouvrages L'Empire des Passions, L'arbitraire politique en islam, paru aux éditions Aubier aussi en 2005. Madame Dahlia, nous avons choisi de consacrer notre entretien avec vous aux différents métissages linguistiques qui ont caractérisé l'espace du Maghreb et du bassin méditerranéen. En tant qu'historienne et non pas linguiste, vous avez voulu impulser une problématique nouvelle à ces recherches sur la langue, d'appeler à un travail de mémoire et d'ouvrir un vaste chantier de travail. Que peut-on dire de nouveau des pratiques linguistiques à travers le prisme de l'histoire? Telle a été donc la question qui vous a inspiré, qui vous a guidé dans vos travaux. Vous avez remonté le fil du temps pour comprendre, nous expliquer les pratiques langagières et leur processus d'homogénéisation, quitte à ce que les résultats parfois contredisent les postulats de certains linguistes ou historiens. La langue franque ou la lingua franca est, d'après vous, l'illustration majeure de ces métissages linguistiques dans le bassin méditerranéen. À cette lingua franca, vous avez consacré un ouvrage très important, Lingua franca, histoire d'une langue métisse en Méditerranée, paru aux Actes Sud en 2008. Voulez-vous, Madame Dahlia, nous donner une première définition historique de cette langue franque?
Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette invitation. La question des langues, c'est vrai qu'elle me préoccupe et m'occupe depuis longtemps. Vous avez eu la gentillesse de rappeler donc ce projet collectif Trame de langue qui a donné lieu à une publication. Effectivement, l'envie de lancer ce programme, elle est venue de ce constat que la langue est toujours un terrain de controverse et de souffrance dans le contexte du Maghreb. Et je me demandais si on pouvait sortir de cette approche très doloriste, très passionnelle aussi de la langue, essayer de la dépasser. Ça, c'est une première chose, sortir d'une vision toujours antithétique, toujours duelle, entre le français et l'arabe, ou entre l'arabe et le berbère. Donc ça a été une des premières motivations. Et la deuxième motivation, ça a été en quelque sorte le conflit des civilisations, c'est-à-dire cette idée de plus en plus affirmée qu'on était face à des blocs de culture, à des cultures antagonistes. Et par la langue, moi, il me semblait qu'on était au contraire dans un rapport, sinon d'intimité, au moins d'intrication, d'imbrication. Et donc c'est de là qu'est venue l'envie de travailler sur la langue franque. Donc pour en donner une définition historique, c'est une langue commune en Méditerranée, c'est une langue de partage qui était utilisée entre les gens d'Europe et les gens d'Islam, ou entre des Européens ne parlant pas la même langue. C'est la langue de communication, en principe, de ceux qui n'avaient pas une autre langue en commun. Alors, historiquement, beaucoup de linguistes la font remonter aux croisades, c'est-à-dire essentiellement au royaume latin de Terre Sainte. C'est là que serait son berceau, d'où son nom, langue franque. Une autre étymologie la rapporte au terme effrange, donc les francs pour les Arabes, mais ça nous ramène aussi à cette période médiévale et au premier contact avec les francs. Donc il y aurait ce berceau médiéval lié aux croisades. Moi, ce que j'en retiens, c'est que les croisades sont à la fois un moment d'intense conflictualité et un moment de métissage, précisément avec ces royaumes de Terre Sainte, un moment de rencontre, donc sans idéalisation de la rencontre, puisqu'elle se base sur le conflit et sur la guerre la plus violente. Et puis, ensuite, après ces périodes médiévales, il y a un moment bien particulier, le début de l'époque moderne, qui est le moment, en fait, qui m'intéresse le plus. Pourquoi ? Parce que c'est là que l'on va donner un nom à ces phénomènes de métissage linguistique. C'est là que l'on va, en quelque sorte, généraliser le nom de langue franque ou lingua franca ou langage de franc ou franco. C'est là que la langue prend un nom, prend le même nom, et que des phénomènes donc de mélange linguistique vont être recouverts d'un même mot et d'un même nom.
Donc juste pour situer un peu historiquement la période d'apogée de cette langue franque, entre le XVIe et le XIXe siècle.
Voilà, tout à fait. Donc le XVIe siècle, ça correspond en fait à une explosion de la guerre de course. C'est le moment où l'Europe prend conscience que la reconquête des lieux saints est une illusion, que la croisade échoue. Et donc elle renonce définitivement à la croisade pour développer ce que Braudel a appelé une croisade de substitution, enfin la course comme substitution à la croisade. Et donc c'est le moment aussi où le centre de gravité de ces affrontements entre la chrétienté et l'islam se déplace vers le Maghreb, donc avec la guerre corsaire. C'est là que le Maghreb va occuper une place plus centrale dans ces affrontements, dans un vis-à-vis direct de l'Europe.
Est-ce qu'on peut considérer cette lingua franca, langue franque, comme une langue à part entière ? Parce qu'une langue se définit par le nombre de ses locuteurs, par son usage exclusif au détriment d'autres langues, par son écriture. Est-ce que la langue franque a été, pour ses locuteurs de l'époque, un lieu identitaire ? Est-ce que ce n'est pas une vision rétrospective que nous projetons aujourd'hui sur l'histoire ?
Absolument, et que nous projetons sur les phénomènes de langue de manière plus générale. Alors effectivement, on peut discuter le fait que la langue franque soit une langue au sens plein, et certains linguistes ont discuté sa qualité de langue justement au sens plein. C'est un pidgin, c'est un mixte de langues, et qui plus est, ce n'est pas un créole, c'est-à-dire que ça ne devient jamais une langue maternelle, ça ne devient jamais la langue d'un groupe en particulier, et donc il n'y a pas effectivement de dimension identitaire à cette langue. C'est un lieu neutre, en quelque sorte, d'où son efficace. C'est ça qui la rend efficace dans des situations de médiation, dans des situations d'entre-deux. Mais ce n'est pas du tout la langue au sens où nous l'entendons aujourd'hui, au sens moderne, en tout cas au sens post-19e siècle. Nous avons un rapport à la langue qui, évidemment, l'investit d'une portée identitaire, mais aussi la fait coller à un territoire, la fait coller à une dimension nationale et politique. Ce n'est pas le sens de la langue franque. Elle ne renvoie à aucune notion de souveraineté territoriale et ne dénote pas une identité en particulier.
Peut-être en nous expliquant un peu la composition de cette langue franque, c'est-à-dire les apports linguistiques de chacune des langues du pourtour méditerranéen, peut-être ça va peut-être mieux illustrer cette portée non identitaire de la langue franque.
Effectivement, et en même temps la question est un peu plus complexe, parce que on pourrait se dire, voilà, toutes les sociétés qui bordent la Méditerranée ont mis quelque chose d'elles-mêmes dans cette langue franque, et donc on a une sorte de précipité de toutes les composantes méditerranéennes, on a une sorte de lieu géométrique, de centre de gravité, de tout ce qui fait la Méditerranée linguistiquement. Donc ça pourrait être une image un peu théorique. Dans la réalité, c'est beaucoup plus décentré que ça. C'est-à-dire que, effectivement, la langue franque joue ce rôle de langue du milieu, joue ce rôle de lieu neutre, sans connotation de dépendance culturelle, sans connotation même de prestige culturel. C'est pas une langue de prestige, c'est pas une langue écrite, c'est pas une langue qui fait littérature. Mais ce n'est pas ce lieu géométrique que l'on peut imaginer. C'est-à-dire que la base est tout de même une base romane. Même lorsque la langue franque est parlée par des Nordiques, par exemple, des Scandinaves, ou encore par des Anglais, ou encore par des Allemands, elle est une langue à base romane, essentiellement donc à base d'italien, puis d'espagnol, avec des proportions variables selon les lieux de la Méditerranée, bien sûr, selon les époques éventuellement, avec des variations régionales également. Et puis, en second lieu, viennent les apports du français ou du provençal, du portugais, et l'arabe ou le turc ne viennent que vraiment en dernier lieu.
15% d'après...
Voilà, c'est ça, entre 10-20% au grand maximum. Ouais. Le grec est également très peu présent, ce qui est très surprenant, si on pense au rôle maritime, évidemment, des Grecs et de la marine grecque, mais aussi très peu d'Arméniens. Ce qui est aussi étonnant si on songe au rôle de courtier qu'ont souvent joué les Arméniens dans le commerce notamment.
Alors, comment expliquez-vous donc cette curieuse disparité alors que l'essentiel de la documentation historique concernant cet usage de la langue franque nous provient en premier lieu des sociétés musulmanes et principalement maghrébines?
Oui, c'est effectivement un mystère historique. Alors, il y a plusieurs façons de l'interpréter. Je ne suis pas sûre d'avoir exactement la clé. Je ne sais pas si on peut tout expliquer. On peut tout interpréter, mais on ne peut pas forcément tout expliquer. Alors, certains linguistes ont invoqué d'abord le rôle prééminent des puissances italiennes, Gênes, Venise, dans l'histoire de la Méditerranée, dans l'histoire commerciale, dans l'histoire maritime. C'est vrai que dans les périodes médiévales, il y a eu une très grande empreinte de Gênes ou de Venise dans toute la Méditerranée, notamment au Levant, qui a pu donner une espèce de matrice italienne à la langue commune. Donc ça, c'est un élément d'explication. L'historien John Wansbrough a également souligné le rôle de l'italien à la base comme matrice de la langue commerciale, mais aussi de la langue de chancellerie. Donc ça a pu fournir une base. Mais il me semble que ça ne suffit pas à expliquer pourquoi les sociétés islamiques ont si peu mis d'elles-mêmes dans cette langue commune, ont finalement manifesté une telle tolérance à parler la langue des Francs, à parler la langue des Européens, sans plus imposer leurs propres usages.
Vous récusez l'argument selon lequel les Arabes voulaient protéger un peu la sacralité de leur langue arabe?
Oui, moi je le récuse. En tout cas, peut-être voulaient-ils se protéger, mais je ne crois pas que l'argument de la sacralité de la langue soit un argument aussi pertinent. Réellement, si cet argument était valable, il n'y aurait pas d'insultes en langue arabe, il n'y aurait pas de littérature érotique en langue arabe ou écrite en caractères arabes. Donc je crois que c'est un argument un peu tardif ou rétrospectif ou un peu plaqué. Il est possible qu'il y ait eu effectivement une volonté d'arrêter des limites. Ça, c'est possible. C'est-à-dire que cette asymétrie dans les usages linguistiques nous renvoie à des sociétés différentes et qui ont un rapport différent à l'autre, à l'altérité. Là, je pense qu'effectivement, il y a un élément d'explication dans lequel on peut rentrer, si vous le souhaitez.
Oui, on reviendra un peu plus tard sur cette question. Je voudrais d'abord vous demander... les historiens associent la langue franque à ce monde de l'entre-deux, à cet univers de renégats, de transfuges religieux, de passeurs, tous ces gens qui circulent sans frontières d'un univers à l'autre et qui ne savent plus très bien à la limite ce qu'ils sont. la définition spatiale des historiens restreint la langue franque, l'usage de la langue franque à l'univers métis, au seul milieu de contact et de la mixité. Mais vous contestez cette définition spatiale restreinte de l'usage de la langue franque.
Oui, absolument. Je trouve que c'est une définition qui fait problème parce qu'elle elle apporte une définition beaucoup trop limitée, beaucoup trop restrictive à cette question du mélange, des interactions. C'est une vision qui a été récemment exprimée par l'historien Robert Davis, qui fait, lui, de la langue franque une langue identitaire, la langue des renégats. Bon, je crois que justement c'est un contresens parce que ce n'est pas la langue d'un groupe, ce n'est pas une langue maternelle. Et donc si les renégats ont pu effectivement parler la langue franque, c'est de manière transitoire. C'est une langue liminale en quelque sorte, c'est la langue qu'on parle dans l'attente d'une intégration et d'un apprentissage de l'arabe ou du turc, le cas échéant. Donc, de manière plus générale, et cette vision se retrouvait déjà chez Braudel, il y a une vision assez péjorative, finalement, du milieu des transfuges. D'ailleurs, le terme renégat l'exprime bien. Le renégat, c'est quelqu'un qui s'est converti, et c'est un terme qui a une vision très négative dans la langue française, alors que pour les musulmans notamment, il s'agissait d'une vision très positive finalement, d'avoir intégré quelqu'un à sa propre foi et à sa propre société. Donc il m'a semblé, à étudier justement les occurrences de la langue franque, qu'on ne pouvait pas du tout en rester à cette définition des linguistes et à la vision des historiens. Alors la définition des linguistes, elle consiste à faire de la langue franque une langue d'usage essentiellement maritime, portuaire, limitée aux franges de la Méditerranée, enfin aux bordures maritimes de la Méditerranée, c'est-à-dire à un univers du port, à un univers de la taverne, sans pénétration dans le pays de l'intérieur. Et moi, il m'a semblé, justement, à reprendre les occurrences de la langue franque qu'on trouve dans les sources, il m'a semblé que ça concernait justement des portions beaucoup plus vastes de la société et que ça pouvait concerner notamment les femmes, les milieux domestiques, les enfants, tout simplement parce que l'interpénétration de l'Europe et des sociétés d'islam était beaucoup plus poussée qu'on le pensait. C'est-à-dire que via le phénomène des captifs, via les phénomènes d'esclavage, mais aussi les circulations libres, il y a quantité de mariages mixtes, entre guillemets, il y a quantité d'Européens qui, de gré ou de force, se retrouvent au service des musulmans. Et donc on se rend compte que les usages de la langue franque allaient beaucoup plus loin dans l'intérieur de la société et dans l'intérieur du pays qu'ils n'étaient admis jusqu'à ces dernières années en tout cas.
Mais pourtant il y a quand même l'expression de quelque chose qui ressemble à un paradoxe dans la lingua franca. L'usage de cette langue franque, en fait, dénote d'une situation non pas de fusion mais de retrait, d'une mise à distance réciproque. L'étranger n'est pas tenu d'apprendre l'arabe ou le turc, il en est même parfois empêché, et symétriquement, on ne s'abaisse pas à lui parler d'emblée en bon italien, en bon provençal, parce qu'on se placerait sur le terrain de son interlocuteur. Et quelles raisons historiques, donc, avancez-vous pour expliquer plus cette apparente résistance? Je ne sais pas si c'est apparente, cette résistance ou ce paradoxe.
Oui, je disais tout à l'heure que la langue franque m'apparaissait comme une langue liminale. Et je crois que c'est ça, c'est une langue du seuil. C'est une langue que l'on parle avec quelqu'un qui est en situation d'étranger, donc qui ne fait que passer ou qui est dans une position liminale, un peu d'observation, ou quelqu'un dont on ne sait pas s'il va rester ou s'il va repartir. Donc c'est une langue qui n'engage à rien, en quelque sorte. Vous n'allez pas sur le terrain de votre interlocuteur, il ne vient pas sur votre propre terrain, et c'est pour ça que je l'appelle une langue de l'entre-deux. Alors le cas un peu standard dans le contexte de l'époque moderne, c'est le captif à rançon, donc quelqu'un qui est là le temps qu'il se rachète, le temps qu'il reparte chez lui, et avec qui on n'engage pas une relation d'assimilation. Mais les choses peuvent changer, il peut décider
d'un... C'est valable dans les deux rives de la Méditerranée.
Ceci est valable dans les deux rives de la Méditerranée. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai développé après la publication du livre sur la lingua franca. J'ai pu trouver d'autres sources qui me montrent de manière encore plus sûre que la langue des Galériens, notamment des Galériens musulmans en Europe, était la lingua franca. Donc une langue de transition, là encore, qui ne se pérennise pas, c'est-à-dire qu'un galérien musulman, un galérien algérien ou turc qui décide de se faire baptiser et de rester en Europe, évidemment ne continue pas à parler la langue franque. Il parlera italien, il parlera français, il parlera espagnol.
Oui, tout à fait. Une langue laisse toujours des traces lexicales, morphologiques, pour le cas de la langue franque. Donc, quelles traces donc a-t-elle laissées dans les dialectes arabes actuels?
Oui, alors c'est bien évidemment par ces traces qu'on la connaît. Pardon, pour revenir sur votre question précédente, non, je voulais juste souligner le fait qu'il n'y a pas de contradiction. Justement dans le fait qu'on peut à la fois souligner la qualité d'étranger de quelqu'un, donc en user de ce véhicule linguistique comme d'un outil d'altérité finalement, pour désigner l'altérité, et dans le même moment c'est une langue commune, c'est-à-dire ça nous montre qu'on est dans une pratique commune, qu'on partage déjà ensemble quelque chose, qu'on est déjà lié par un même usage.
Donc c'est toute une philosophie dans le rapport à l'autre.
Voilà, c'est ça. On est déjà dans l'intercompréhension, on est déjà dans je ne veux pas parler d'identité commune, mais on est déjà dans le partage en même temps qu'on se reconnaît comme étranger, et comme étant dans l'altérité. Pas nécessairement dans le conflit, mais dans l'altérité. Alors, les traces, justement, les empreintes de cette langue franque reflètent aussi ce rapport d'altérité. C'est-à-dire que souvent, ce sont des sources qui nous renvoient à une histoire d'adversité, de conflictualité. Il y a beaucoup d'empreintes dans des relations de captivité, par exemple. Donc les textes que rédigeaient d'anciens prisonniers, notamment des musulmans, les musulmans, eux, prisonniers en Europe, ont très peu rédigé de relations de leur captivité, ou alors on connaît mal ces textes, ils ont été peu exploités. Il y a des lettres qu'on est en train de redécouvrir, mais de manière générale, la documentation, elle concerne les captifs chrétiens en terre d'islam. Également parce que ces écrits autobiographiques étaient suscités par les ordres religieux chrétiens et par l'Église. Et alors, quand est-ce qu'on trouve justement des occurrences de la langue franque, des citations au style direct? C'est dans les moments de grande conflictualité, c'est dans les moments où on restitue, par exemple, les cris des gardiens ou des situations de négociation très tendues pour le prix de la rançon. On trouve également des traces dans les sources diplomatiques, et là aussi on a des citations style direct dans les moments de conflit, dans les moments où la colère éclate et où il faut restituer à la lettre les paroles qui ont été prononcées. Et sinon, effectivement, il y a une empreinte de la langue franque dans les langues arabes, notamment maghrébines. Le linguiste Guido Cifoletti notamment a pu montrer cette empreinte dans le dialecte arabe tunisien, une présence aujourd'hui un peu méconnue et oubliée des locuteurs, évidemment.
D'ailleurs, les lecteurs intéressés peuvent se reporter à votre ouvrage Lingua Franca, où vous insérez un petit glossaire à la fin de votre livre, où vous donnez quelques exemples donc, de cette terminologie.
Voilà, des exemples un peu classiques, un peu récurrents, et qui justement montrent le caractère un peu standardisé, finalement, des termes qui renvoient à la conflictualité, à une relation tendue. Non pas que la lingua franca n'est servie que dans ces situations, mais c'est dans ces situations qu'on en trouve des occurrences au discours direct.
J'aimerais vous demander quand même comment, pour ces sources historiques, vous les trouvez où et comment?
Eh bien, quand on est historien, on est un peu boulimique de sources, donc on va regarder un petit peu de tous les côtés. Et bon, étant donné justement cette cette idée que les passages au style direct se trouvent liés à des moments de tension, on va chercher du côté des sources où on a des chances d'avoir une description de situation d'adversité. Donc effectivement, les relations de captifs, les relations de voyageurs, les rapports diplomatiques.
Oui, parce que semble comme cette question intéressait beaucoup plus les linguistes que les historiens.
Oui, effectivement, mais beaucoup de sources d'ailleurs avaient été vues par les linguistes, par exemple dans la littérature, il y a beaucoup de sources littéraires, on n'en a pas encore parlé, mais il y a un usage littéraire de la langue franque qui a été fait dans les œuvres théâtrales de Turquerie, de l'Europe de l'époque moderne, dans l'opéra également. Donc ça, ça avait été, ces sources littéraires notamment avaient été repérées par les linguistes, Goldoni par exemple pour ses usages de la langue franque, ou Molière. Les sources historiques, évidemment, ils les connaissaient moins.
Vous avez cité dans votre ouvrage aussi l'exemple de Saint Bernardin, donc...
De Bernardin Saint-Pierre.
Tout à fait. Oui.
Alors depuis, je me suis rendu compte que Diderot également avait parlé la langue franque, Voltaire l'utilise également. Je crois qu'on pourrait développer plus encore le corpus des auteurs pour qui c'était une réalité familière, finalement.
D'accord. Mais dans cette langue franque qui a été donc un vecteur fort de communication du 16e au 9e siècle, je rappelle, au début du 19e siècle, cette langue franque figurait encore une réalité assez familière, même si cette réalité n'était pas universelle dans toute la Méditerranée. Et c'était un emblème d'un entre-deux que l'on a perdu de vue. Pourquoi plus personne aujourd'hui ne sait ce qu'était la langue franque au sens historique? Pourquoi elle est aussi absente dans notre mémoire collective? Elle a sombré dans l'oubli.
Alors effectivement, c'est au début du 19e siècle que quelque chose se joue, que le rapport à la langue de manière plus générale se modifie. Tout d'abord, je soulignerai le fait qu'effectivement, c'était une langue d'évidence, mais une évidence, malgré tout, qui n'est pas sur le mode du prestige, une évidence triviale. C'est comme quelque chose qui est là, mais à valeur pragmatique, instrumentale, et donc une présence un peu comme en filigrane. C'est un outil qu'on ne pense pas nécessairement à décrire, à présenter, à mettre en avant. Donc une présence un peu interstitielle, bien souvent. Alors, ce qui se joue au XIXe siècle, c'est d'une part un rapport qui se modifie à la langue, puisque peu à peu le nationalisme s'impose dans les catégories politiques, et l'idée d'un rapport d'essence, d'un rapport d'identité entre un territoire, une nation et une langue s'impose, se fait jour. Donc les langues mixtes, de manière plus générale, deviennent des langues qui dérangent. Deviennent des langues qui n'ont pas leur place. Il y a un rapport d'épure à la langue, et là je citerai par exemple le cas de la Grèce, qui lorsqu'elle se débarrasse du joug ottoman, avec l'aide de l'Europe d'ailleurs, et le soutien de toute l'Europe, commence par épurer sa langue. Et donc l'épure des apports ottomans, turcs, mais l'épure aussi des apports italiens. Donc c'est l'idée qu'il faut une langue pure. Ce qui se joue aussi, et ce n'est pas sans rapport avec cette affirmation nationale ou nationaliste, c'est évidemment le rapport colonial. Le rapport colonial qui s'instaure à partir de l'expédition d'Égypte. Et donc là, un nouveau rapport aux langues s'impose, en même temps qu'un nouveau rapport à l'autre, tout simplement. C'est-à-dire que là aussi, cette langue du milieu, de l'entre-deux, mais cette langue trait d'union, ne fait plus sens. S'il y a entre nous un trait d'union, il n'y a plus de rapport colonial possible. Si on a une langue en commun, si on partage quelque chose, il n'y a plus de colonisation possible. La colonisation ne peut s'imposer que sur une base d'altérité pure, en quelque sorte. Quitte à relancer ensuite un processus d'acculturation, de métissage, mais colonial. Et donc il y a un changement complet, finalement, dans le rapport à la langue de l'autre. On passe de la langue franque au sabir. Oui. Alors, la langue franque, c'était une langue...
Ça veut dire qui viendrait de sabérer, peut-être, qui veut dire
voilà,
savoir.
Qui viendrait du mot savoir, effectivement, oui. Qui renvoie peut-être aussi par jeu à ces fameuses strophes du bourgeois gentilhomme, ou le bourgeois gentilhomme dans la cérémonie turque, quand il est intronisé comme grand mamamouchi, et des Turcs qui chantent « Siti sabir, ti respondir ». Donc ça viendrait peut-être de ce mot « sabir ». En tout cas, il y a un changement complet dans le mode de fonctionnement de la langue franque et du sabir. La langue franque est une langue réciproque, utilisée de part et d'autre, et c'est une langue de convention, c'est une langue de code. Chacun sait bien qu'il ne parle pas vraiment la langue de l'autre, qu'il parle une langue du milieu, une langue bricolée. Alors que dans le sabir, c'est une langue d'impuissance finalement. C'est la langue de l'indigène qui essaye de parler le français ou qui essaye de parler l'anglais dans d'autres contextes et qui n'y arrive pas. Et cette langue d'impuissance est reprise par le colon pour se mettre à la portée de l'indigène. Donc il y a un changement complet dans le rapport à l'autre qui est lié au sabir. Et tout ça se joue effectivement... dans le premier tiers du XIXe siècle, ou après l'expédition d'Alger.
Cette négligence de la langue franque en tant qu'objet historique est d'autant plus incompréhensible qu'il y avait une circulation de marchandises et de biens extraordinaires dans cette époque-là. Donc on ne peut pas parler de circulation de marchandises ou d'hommes sans parler de circulation de langue et de mots.
Effectivement, mais ça posait un très gros problème historiographique. Bon, d'abord, ça a posé un problème politique, comme je viens de le rappeler, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de colonisation possible si on commence par prendre en considération ce qu'on a en commun. La conquête de l'Algérie, notamment, a donné lieu à une espèce d'ensauvagement dans les esprits. C'est-à-dire que l'Algérie a été vue comme un pays sauvage, relativement vide, et comme une espèce de terre inconnue, un peu sur le modèle de la conquête de l'Amérique. Pour coloniser l'Algérie, et je rappelle que ça a été fait avec certaines brutalités, enfin, je renvoie au fameux épisode des enfumades de Bugeaud, il a fallu justement une forme d'ensauvagement. C'est-à-dire qu'on a oublié toute cette histoire séculaire de commerce, d'échange, de circulation, une histoire parfois violente qu'il ne faut absolument pas idéaliser, et la captivité à rançon, c'était pas nécessairement une expérience plaisante du tout, donc il y a beaucoup de souffrance dans ces siècles d'histoire partagée, mais aussi beaucoup d'imbrications, beaucoup d'osmose, et tout ça a été radicalement écarté, mis de côté. Donc un problème politique qui a nécessité l'oubli de part et d'autre de cette histoire commune, sinon on ne pouvait pas comprendre la situation coloniale. En second lieu, historiographiquement, il y avait une sorte de nécessité logique d'oublier la langue franque et cette histoire commune. Parce que dans la problématique de la langue qui est la nôtre aujourd'hui et qui est la nôtre depuis quelques décennies, voire plus d'un siècle, la langue a donc une conception identitaire et renvoie à des enjeux de suprématie culturelle, de hiérarchie culturelle, de prestige culturel, tout simplement. Et donc, si on avait mis en évidence la part de romanité familière, finalement, aux Maghrébins notamment, on aurait paru faire la démonstration d'une acculturation précoce du Maghreb aux langues européennes et notamment au français. Je crois que c'était ça qui faisait problème finalement dans l'historiographie des années 60 notamment. Si on avait montré que les Maghrébins parlaient la lingua franca, on aurait pu montrer qu'ils étaient déjà acculturés à la France. Alors que dans les perspectives de l'époque moderne, enfin du XVIe au XVIIIe siècle, il n'y avait pas de dimension d'acculturation puisque ce n'était pas des langues de prestige.
Oui. Vous vous rappelez, juste dans l'histoire du Maroc, par exemple, que tous les collaborateurs ou les vizirs du sultan du Maroc parlaient couramment l'espagnol dans le XVIIe siècle, et de même le collaborateur du Bey de Tunis maîtrisait parfaitement l'italien.
C'est ça, c'était des langues vraiment instrumentales, mais qui n'avaient pas de dimension de langue prestigieuse. Et d'ailleurs, c'est parfaitement cohérent, on n'a pas créé un enseignement des langues occidentales sur le modèle de l'orientalisme européen du début de l'époque moderne. Il n'y avait pas ce rapport d'admiration de la culture européenne jusqu'au XIXe siècle.
Oui, ce rapport hiérarchique de supériorité ou de complexe d'infériorité, de supériorité, il n'existait pas.
Absolument pas, absolument pas. Et ça, c'est très important de l'avoir en tête.
Oui. Les textes historiques attestent tous d'une forte hétérogénéité des pratiques langagières. Il y a une tension permanente entre hétérogénéité et homogénéisation politique. Vous postulez la dimension hétérogène de toute langue avant son institutionnalisation politique, comme ça a été le cas jadis pour le français, le lingua franca, langue sans frontières, sans principe territorial. Donc sans sous-estimer le rôle du processus d'homogénéisation au niveau de l'écriture, de la standardisation de la grammaire, vous privilégiez l'hétérogénéité comme fondement des pratiques langagières.
Je crois qu'effectivement, on a souvent un rapport assez anachronique à la langue, ou une vision passablement rétrospective de la langue. Même aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous oublions qu'il y a une majorité de locuteurs dans le monde qui sont plurilingues, et pour qui le fait de passer d'une langue à l'autre est d'une banalité criante. C'est-à-dire qu'il y a une forme, finalement, de... Je ne sais pas s'il faut dire d'eurocentrisme, mais en tout cas d'ethnocentrisme, à imaginer que la situation standard et normale, entre guillemets, c'est un pays, une langue. Ce n'est pas le cas pour une majorité de locuteurs dans le monde actuel. Et a fortiori, pour les époques du passé, ce n'était pas le cas. Passer d'une langue à l'autre était quelque chose d'extrêmement banal, y compris au sein de situations familiales. Donc je crois que c'est important de retrouver la notion de cette fluidité, sans l'idéaliser, il ne faut pas en avoir une vision romantique non plus, mais c'était des situations effectivement très peu unifiées sur le plan linguistique. Ce qui nous aide aussi d'ailleurs à comprendre le rapport à l'étranger, puisque les variations langagières étaient très, très fortes, étaient très grandes, même en se déplaçant d'une vingtaine de kilomètres. Donc je crois que c'est important pour comprendre comment pouvaient fonctionner ces sociétés. Ça explique notamment qu'il y ait eu tant de phénomènes, par exemple d'imposture, de gens qui changeaient d'identité, ou d'étrangers qui pouvaient très bien s'intégrer dans des sociétés très différentes de la leur.
Oui. Ce qui nous amène en fait à la question de ce rapport irrévocable ou pas, identité-langue, c'est-à-dire ou langue-territoire, langue-nation. Vous appelez à déconstruire, si on utilise le terme de Derrida que vous citez par ailleurs, dont vous citez le monolinguisme de l'autre, de Derrida, et son dialogue avec Khatibi, l'écrivain marocain. Donc vous, cette équivalence langue-territoire, langue-identité, langue-nation renvoie d'après vous à un fantasme d'identité pure, tout simplement. Donc vous appelez à une déconnexion de ce lien identité-langue, mais il faut rappeler que cette connexion, cette déconnexion de lien identité langue-nation se heurte au tenant de l'objectivation de l'homogène que pensent beaucoup de linguistes et d'historiens.
Oui, alors je dirais tout d'abord que il ne faut pas non plus évacuer totalement l'idée qu'une langue fait nation, même pour les gens de l'époque moderne. Le point que je soulignerais, c'est le fait qu'on a affaire à des modalités régionales extrêmement variées, extrêmement diverses modalités régionales de la langue française, mais aussi de la langue italienne. Et pourtant, les sources renvoient très souvent à des catégories un peu génériques nationales. C'est-à-dire qu'on vous explique que la langue franque est composée d'italiens, d'espagnols, de français. Mais alors, quel italien? Quel espagnol? Il est vraisemblable qu'on a, selon le cas, plutôt du florentin, plutôt du vénitien, plutôt du génois, ou alors diverses modalités de l'espagnol, du majorquin, etc. Donc il y a de toute façon une perception un peu globalisante derrière les phénomènes de fluidité et de très grande diversité régionale des langues. Donc je n'exclus pas complètement non plus pour l'époque moderne cette velléité de retrouver de l'unité ou de chercher de l'unité, mais pas avec le sens politique que nous lui avons donné à partir du XIXe siècle. Et alors le point sur lequel j'avais envie d'agir en tant qu'historienne, mais dans une perspective relativement civique, enfin dans une perspective assez politique, je dois le dire, c'était justement de réagir contre cette tension de l'homogène, cette tension de l'un, qui a commandé l'histoire du Maghreb, notamment, depuis l'affirmation nationaliste, anticoloniale. C'est-à-dire que la volonté de se libérer du joug colonial a conduit à des positions d'homogénéisation et linguistique et politique dont les effets ont été évidemment bénéfiques en termes de libération politique, mais très lourds ensuite en termes d'accès à une diversité politique. C'est-à-dire que la légitimité de la lutte anticoloniale a conduit finalement à faire régner le primat de l'un dans tous les domaines. Dans le domaine linguistique, notamment, donc avec le refus du berbère et des berbères, ou d'autres formes de mixité, le refus du pluralisme politique, le refus également de certains pluralismes culturels, jusqu'à une période récente, en tout cas. Donc il me semblait que ce travail sur la langue et cette déconstruction, en quelque sorte, de la tension dans la langue pouvait dénouer, dans une certaine mesure, ce régime unitaire, pouvait permettre de sortir de cette tension de l'homogène.
Oui, donc d'après vous, donc pour comprendre, entre parenthèses, ces fantasmes de pureté identitaire, oui, qui animent beaucoup de maghrébins, donc, puisqu'on parle du Maghreb, donc il faut absolument revenir à cette période de colonisation qui a engendré une forme de crispation identitaire.
Oui, alors je ne veux pas dire une fois de plus que tout vient de la colonisation, qui serait la source de tous les maux. Mais de fait, il me semble que c'est cette réaction anticoloniale et la légitimité d'une action anticoloniale qui, par la suite, a justifié toutes ces crispations et la reconduction de ces crispations unitaires. Cela dit, mon souci était d'abord d'agir au sein du Maghreb, en quelque sorte, pour dénouer ce que Abdallah Bounfour, je reprends le titre d'un de ses livres, a appelé le nœud de la langue. Donc il y avait quelque chose de noué à dénouer, mais il ne faut pas oublier que cette tension autour de la pureté de la langue, cet enjeu identitaire de la pureté de la langue, il est absolument réciproque. Et on voit bien actuellement en France comment les enjeux autour de la question du français sont foncièrement des enjeux politiques et ont trait avec la crainte d'un déclin de la France sur la scène internationale et donne lieu aussi à des crispations face au reste du monde et notamment du monde anglophone.
Oui. J'aimerais citer ce court passage d'un livre de Khatibi, Amour bilingue, où avec beaucoup d'ironie, beaucoup de légèreté, cet écrivain marocain parle de ce malentendu, de cette sorte de lingua franca. Il écrit en 1830, les troupiers français avaient appris quelques mots d'un savir, lingua franca, mélange de mots italiens, espagnols, provençaux. Vous n'allez pas me prendre à la lettre, dit Khatibi, mais ils croyaient parler en arabe, alors que les soldats arabes croyaient parler en français. Quelle histoire ! Cela devait mal finir, conclut-il.
Oui, il résume les choses effectivement avec beaucoup d'humour. Il y a quelque chose de très juste dans cette formulation, c'est-à-dire que chacun parle la langue de l'autre. C'est une langue qui n'appartient à personne, mais la langue de personne, effectivement. Et la langue franque a bel et bien été la langue qui a été enseignée aux troupes du contingent en 1830, puisqu'on a édité un dictionnaire de la langue franque ou petit mauresque en 1830 précisément, à l'intention des troupes qui partaient en Algérie. Donc on leur a enseigné la langue franque et non pas l'arabe.
Donc, l'occultation actuelle de cet héritage pluriel dans le cas du Maghreb et dont l'aboutissement est celui d'une purification linguistique trouve son explication dans la réaction nationale des États face à la colonisation qui a produit un puissant processus de réduction identitaire et de purification de représentation de la langue et en certains cas de la langue elle-même. Donc, pour vous, le retour à l'histoire de lingua franca, donc, participe une sorte de remède à ce genre de crispation identitaire.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a une coïncidence entre le moment où se met en place la colonisation française notamment, et un moment nationaliste en France et en Europe qui consiste à lutter contre les langues régionales, contre les diversités linguistiques. Donc il y a bien un lien qui serait à creuser entre les deux, entre cette affirmation de l'un sur le plan nationaliste et cette affirmation coloniale ou ce sentiment de légitimité à coloniser l'autre. Donc pour moi, le fait de travailler sur la période moderne consiste à aller en deçà de cette tension coloniale, mais aussi à sortir de ces problématiques qui sont toujours des problématiques d'affrontement duel, toujours des problématiques de la dette, essayer de retrouver d'autres manières de formuler la difficulté des relations actuelles entre l'Europe et l'islam. Et finalement, je trouve que la période moderne, avec la guerre de course, ressemble beaucoup à la situation que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire une situation de forte conflictualité, une situation de forte adversité entre l'Europe et l'islam, mais en même temps qui n'est pas une situation coloniale. Évidemment, on peut toujours parler de néocolonialisme, de dépendance, avec quelques arguments. Mais de fait, sur un plan factuel, on est dans une situation d'équilibre politique et de souveraineté réciproque, bien sûr.
Donc, pour vous, réécrire l'histoire méditerranéenne, oro-maghrébine, sous le signe du contact, du métissage, de la fusion des cultures, est une revendication assez donc légitime pour vous résoudre un peu la crispation et déchirement actuels.
Oui, parce que je trouve que la pensée en termes de choc des cultures, de choc des civilisations, l'idée qu'on est dans des cultures séparées est une idée très dangereuse. Je n'ai pas là une vision irénique du rapprochement naturel et de la nécessité de s'aimer. Au contraire, je crois qu'on ne doit pas exclure l'histoire des conflits. Les conflits sont réels. S'ils existent, c'est qu'il y a des raisons. On peut avoir des désaccords politiques, des désaccords politiques de fond. On peut être dans l'adversité. Ce n'est pas un problème, en quelque sorte. Parce qu'on peut toujours parler ensemble, on peut toujours trouver des solutions, on peut toujours négocier. Et puis, après tout, le conflit est à la base de toute vie sociale. Il est à la base de toute relation de travail, par exemple. Il est à la base de toute relation même de couple. Enfin, le conflit est quelque chose de naturel. dans l'existence des hommes et des sociétés. Donc il ne faut surtout pas masquer le conflit essayer de le réduire. En revanche, les clivages culturels sont des clivages qui vous enferment complètement. Si on se base sur l'idée qu'on est dans des mondes culturellement distincts et séparés, il n'y a plus de rapprochement possible, il n'y a plus de discussion même possible. Donc ma perspective est la suivante, le conflit, pourquoi pas, mais sortons de cette idée d'un fossé culturel absolu, parce qu'historiquement c'est faux, tout simplement.
Sur ces paroles positives, nous concluons cet entretien. Merci, Madame Barguillard.
C'est moi qui vous remercie.